Voilà, en générique, donc on a pu entendre la voix d'Hélène Gosselin-Jacobacci, que je remercie d'être venue dans notre studio pour nous parler d'un beau voyage en Mongolie et également de technique vocale. Donc là, bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour. Merci Odile. Merci Fréquence Mistral de me recevoir ce matin.
Donc aujourd'hui, on va parler de Mongolie, mais aussi de ce chant, de cette technique vocale, puisque c'est vous qu'on vient d'écouter, accompagné d'un nigil.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'igil, c'est un instrument qui vient de Sibérie du Sud, de la région Touva. En fait, les gens qui habitent là-bas, les gens qui vivent à Touva, dans cette région, ils ont aussi, comme les Mongols, un chant traditionnel qui est très proche du chant diphonique mongol. Et par conséquent, ils ont également des instruments pour s'accompagner. Alors, les instruments de Sibérie du Sud, voilà, l'igil, c'est comme la vielle morinhur mongole à tête de cheval, sauf qu'elle n'a pas la même forme et il n'y a pas de tête de chevaux sur les igils. Voilà, donc l'igil a une forme ovale et la morinhur, qui est vraiment mongole, a une forme carrée. La caisse est carrée. Voilà.
Alors moi, je vous connais comme chanteuse de jazz.
Entre autres.
À la base, oui. Et là, donc, une passion soudaine pour ce chant, cette technique vocale.
Alors ça, je remercie une personne qui s'appelle Dimitri Geskin, que vous devez connaître si vous habitez Digne, parce que c'est le patron de l'ensemble, notre sonothérapeute de Digne-les-Bains, qui, il y a 3-4 ans, a fait venir un professeur de chant diphonique touva, qui s'appelle Imre Pemot, qui vit en Finlande. Alors il est venu, cet homme, pour faire une masterclass, on dit un stage aussi, en français. Et toutes les personnes ont pu s'essayer à cette technique vocale, pendant le week-end où le stage avait lieu. Et en fait, il se trouve que j'ai réussi à le faire à la fin de la première journée. Donc l'année suivante, j'y suis retournée. Je crois qu'il est venu 2-3 fois. Et je me suis un petit peu pris, j'ai un peu chopé le virus. Alors, je vais pas dire que je chante comme les chanteurs traditionnels mongols ou de Sibérie du Sud, parce que c'est une technique vocale qui est quand même assez difficile et dans la sonorité, ça peut paraître un peu ingrat. Moi, ça fait peur aux chats quand je le fais à la maison. Les chats s'en vont en courant par la fenêtre. Et voilà, donc là, je ne prétends pas chanter. Je prétends juste appliquer ce que j'ai appris, c'est-à-dire la technique vocale du khume. Alors, dans le khume, il y a tout un tas de techniques. Il y a également l'esprit de la montagne. Alors, l'esprit de la montagne, c'est le kagra. Le kagra, c'est ce que vous avez entendu là au début pour le générique. Ça, c'est la montagne, c'est sur l'Altaï. Et vous avez également le chant de la plaine qui, lui, s'appelle le Chara. Alors, le chant de la plaine, c'est une voix pressée. Donc, on met un peu de pression dans la gorge. Alors là, vous entendez quelques petites harmoniques. C'est une technique avec la langue. On pose la langue au palais et on la recule, on l'avance, on la recule, on l'avance et ça crée la diphonie et les harmoniques. Voilà. Donc là, c'est pas vraiment du chant, c'est une technique, c'est la façon, c'est comment on utilise cette technique pour chanter. Alors moi, je ne chante pas encore. Un jour peut-être. Donc, je voudrais également parler de l'Institut des musiques du monde d'Aubagne, où je suis allée également faire un stage au mois de février l'année dernière. Alors là, c'est formidable parce qu'ils travaillent en collaboration avec le Conservatoire d'Aubagne. Et il y a un professeur qui s'appelle Joanny Curté, qui a créé, pour son examen d'ailleurs, parce qu'il a passé des examens professionnels pour être professeur là-bas, il est musicien, chanteur, compositeur, et il organise des stages avec des Mongols natifs. Donc ça, c'est une grande chance, parce que en plus, il est interprète, il est marié avec une femme mongole, donc il parle très bien le mongol. Donc la personne de Mongolie vient à Aubagne et vraiment apprend les techniques, le chant à tous ceux qui veulent venir et participer au stage. Donc il va y en avoir un en février, un en avril. Voilà, peut-être vous pouvez aller, si ça vous intéresse, sur le site de l'Institut des musiques du monde à Aubagne. Voilà, et vous aurez tout le planning. Donc cet homme, Joanny Curté, a créé un double CD avec tout un tas de personnes, artistes, musiciens de Mongolie, qui, justement, ont fait des enregistrements avec lui pour montrer un petit peu le chant traditionnel, parce que c'est assez peu connu. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite une femme. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui chantent et qui jouent de la musique traditionnelle mongole. Cette femme s'appelle Osok Jargal Purev Suren, et à l'instar des hommes, les femmes maîtrisent les styles principaux et la plupart des techniques de Humé, comme le montre ici cette diffoneuse professionnelle.
Voilà, vous êtes bien sur Fréquence Mistral. Et c'est des chants qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc c'est du Koumé.
Koumé.
Koumé,
oui,
voilà.
Koumé.
Et c'est un chant
traditionnel, mongol et également de Sibérie du Sud. Parce qu'en fait, la Mongolie, elle est prise entre la Russie au nord et la Chine au sud. Donc, quand vous descendez au sud, vous avez le début du désert de Gobi. Et au nord, il y a les éleveurs de rennes. Voilà, on se rapproche de la Sibérie. Voilà. Donc, ce que je tenais à dire aussi, c'est par rapport à ce chant. Il faut savoir que, vraiment, le chant traditionnel mongol est inspiré de la nature. C'est-à-dire que tous les professeurs disent, pour vraiment apprendre la technique mongole, il faut chanter dehors. Pourquoi ? Parce que dans la steppe mongole, il y a beaucoup de vent, quand c'est la saison du vent, et il faut chanter à travers le vent. C'est-à-dire écouter le vent et essayer de s'aligner sur la note qu'on entend, du souffle du vent, pour chanter fort aussi, parce qu'il faut se faire entendre, donc il faut chanter à travers le vent. C'est assez poétique. Et la même chose pour la rivière. Alors, quand vous écoutez la rivière, vous asseyez près de la rivière et vous faites le houmé en essayant de vous caler sur la sonorité de la rivière que vous entendez, la tonalité, ou voilà, ce que ça vous inspire. Voilà, donc c'est quand même très, très poétique, je trouve, cette façon de faire. Ouais. Et donc pourquoi je suis allée en Mongolie? Bah voilà, je voulais exercer donc en Sibérie du Sud avec le chant que m'avait appris, enfin la technique que m'avait appris Imre Pimot. Et j'ai pas pu aller en Sibérie parce que bon, c'est la guerre là-bas, vous savez bien. Donc je me suis dit, bah alors je vais aller chanter avec les Mongols. Et donc j'ai pris contact avec Imre en Finlande et il m'a conseillé de téléphoner à un ami à lui qui s'appelle Husso, qui est auteur, compositeur, interprète, connu dans tout le pays. Il fait de la télévision, il organise des festivals de chant, il joue très bien, il connaît tout le monde là-bas. Et donc j'ai contacté cet homme qui m'a organisé un voyage de 3 semaines avec mes 2 fils et l'une des petites amies d'un de mes fils. Voilà, donc on est parti du début juin, du 2 juin jusqu'au 21 juin. C'est pas si loin, bon, c'est quand même l'autre bout du monde, hein. C'est 15 heures de voyage avec une escale qu'on a fait à Istanbul, mais on peut en faire ailleurs. Et du coup, bah voilà, vous arrivez à Ulaanbaatar, qui est un petit aéroport à une 50aine de kilomètres de la capitale. Et vous êtes tout de suite, dès que vous sortez de l'aéroport, vous êtes dans la steppe avec les chevaux sauvages qui traversent la route, avec les collines vertes, parce qu'au mois de juin, tout est vert encore. Et ensuite, vous arrivez à la banlieue d'Ulaanbaatar. Il faut savoir, c'est une grande ville. Ulaanbaatar, c'est une grande ville, il y a plus d'un million d'habitants. Et du coup, vous arrivez dans cette banlieue qui est un peu industrialisée, donc c'est pas très joli quand vous arrivez. Il y a des usines à charbon, il y a une centrale électrique, il y a des câbles, des fils, des engins un peu partout. Et ensuite, quand vous arrivez dans le centre-ville, où nous avions réservé un Airbnb, eh bien là, vous êtes vraiment dans une grande ville, hein, avec tout ce que ça comporte, les klaxons, la pollution, l'effervescence, les grands magasins, voilà. Il faut savoir que là-bas, c'est la spécialité dans la ville, c'est vraiment le cachemire. Donc on est à des boutiques de cachemire, bon, c'est un peu cher, mais c'est vraiment très beau. Alors, par rapport à la Mongolie, il faut savoir qu'elle est composée d'1,556,000 km², donc ça fait 3 fois la France. Et dans ce pays, il y a seulement 3,5 millions d'habitants. Donc il y a 1,7 million à Ulaanbaatar. Donc ça fait moins de 2 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc c'est un pays très grand, où la plupart de la population se concentre sur Ulaanbaatar. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres villes, plus petites, mais tout aussi habitées et vivantes. Et par contre, dans la steppe, eh bien, il y a surtout les éleveurs de rennes, alors ça c'est au nord, les éleveurs surtout de yaks, de moutons, de chèvres et de chameaux, quand on descend sur le Gobi, sur le sud de la Mongolie. Donc là-bas, nous avons été logés chez des habitants. Hein. Il faut savoir qu'au milieu de nulle part, vous avez 3-4 yourtes. Et quand vous arrivez, bah, ils en montent une de plus pour vous. Et là, les gens vivent en pleine nature au bord de la rivière, parce que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre dans la steppe. Il faut savoir qu'au mois de juin, la steppe est recouverte d'une petite plante, du genre l'armoise, ça ressemble à l'armoise. Et ça a un parfum quand vous marchez. quand les animaux broutent, ça sent partout cette odeur très très agréable à respirer. Le climat est doux en juin, c'est vraiment, il fait très bon, hein, on est en t-shirt dehors. Les nuits sont un peu fraîches, parce qu'il y a de l'altitude un peu toujours, et vraiment les animaux sont en pleine liberté. Alors quand vous voyagez à travers la Mongolie, nous avons fait plus de 3000 km en voiture, c'est une voiture 4x4 très confortable, hein. Quand vous voyagez, sur les pistes et sur les routes, vous avez des troupeaux qui traversent. Alors on se dit, tiens, il y a un berger dans le coin. Non, 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 ce sont des animaux sauvages. Les chèvres sont sauvages, les moutons aussi, les yaks, à part les chameaux, il y en a aussi qui se promènent un peu librement. Et quand l'éleveur a besoin de traire les femelles le matin à 8h, hein, je sais, je l'ai fait aussi, eh bien, ils vont chercher les animaux dans la steppe. Ils vont les rabattre à cheval ou en moto, parce que maintenant ils ont des petites motos qui viennent de Chine, là. Et du coup, ils les ramènent dans un petit corral, hein, ce sont des petites barrières en bois. Hop, tout le monde est convié pour rabattre le troupeau. Alors on rabat sur tous les mères avec les veaux. On laisse les veaux téter un peu, et ensuite, hop, on enlève le veau et on prend le lait qui après les femmes font, c'est surtout les femmes, hein, qui font ça. Les hommes rabattent, les femmes traient. Les hommes aussi, surtout les jeunes hommes, très aussi. Et ensuite, ils font le fromage, et vraiment, c'est l'alimentation de base, avec la viande. Alors, il n'y a pas de réfrigérateur. La viande est conservée dans la yourte, souvent sous le lit, comme ça, sur un chiffon. Elle est coupée tout petit, et c'est toujours cuit dans une grosse marmite, avec de l'eau, du sel, du poivre, des choses comme ça. Et ils font venir des légumes de Corée du Sud, parce que là-bas, les légumes ne poussent pas. Ils ne font pas pousser de légumes, surtout que, voilà, je ne sais pas pourquoi, en fait, parce qu'il fait bon, il reste quand même un certain temps, ils pourraient faire un potager, mais je pense qu'ils ne doivent pas rester suffisamment longtemps au même endroit pour faire vraiment créer un potager. Alors il en existe, on en a vu à Kvod, qui est une petite ville au centre de la Mongolie. On a vu en arrivant, on a vu des serres. Alors ça commence un peu à produire en Mongolie. Et du coup, je pense que dans cette région-là, ils auront plus de légumes. Sinon, vraiment, tout vient de... Alors quand je dis tout, c'est pas grand-chose, hein. C'est du chou, des oignons, des pommes de terre et des carottes. Voilà, ce sont les seuls légumes. Alors il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Donc quand vous arrivez dans un camp de nomades, c'est très bien d'amener avec vous des fruits que vous avez achetés en ville. Alors, si vous venez d'Oulan-Bator, vous pouvez tout à fait emmener des bonbons pour les enfants, parce qu'il n'y a aucun magasin. Hein. C'est la steppe, c'est le désert, il n'y a rien ni personne. Donc vous pouvez amener de l'eau, parce que l'eau de la rivière, il faut vraiment la faire bouillir avant de la boire. Donc vous pouvez acheter de l'eau en supermarché, des bidons de 5 litres, et ensuite au moins vous avez de l'eau pour boire. Parce que pour se laver, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de réfrigérateur, je l'ai déjà dit. Ils ont quand même l'électricité par des panneaux solaires. Alors il y a la télé dans les yourtes, et ils peuvent tirer un fil jusqu'à votre yourte à vous pour que vous puissiez brancher votre téléphone, voilà, comme ça on a un peu de lumière aussi. Sinon dans chaque yourte on a le poêle pour se chauffer le soir, et même en juin on fait une petite flambée. Voilà. Donc voilà, c'est un mode de vie très rustique qu'on a connu, mais je sais qu'il existe des endroits plus confortables pour les Européens et les gens qui ont besoin de plus de confort. Moi, mon guide, je lui avais demandé vraiment de vivre à la Mongole, voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Donc nous n'avions ni salle de bain, on n'avait pas d'électricité partout, les lits sont pas très confortables, mais je sais qu'il existe des choses beaucoup mieux. On a connu par la suite des endroits plus confortables. Notamment, on est allé dans deux hôtels pour prendre des vraies douches, laver notre linge, etc. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des pressings, hein, dans toutes les petites villes. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter un autre morceau. Alors là, c'est une archive sonore de la Radio Publique Nationale de Mongolie. Ce monsieur s'appelle Sundui Dokshin. Et lui, il a intégré un vibrato au Khoumé. Et ce phénomène est devenu le principal modèle à suivre pour les générations suivantes. Cette archive date de 1969. Sundui Dokshin. Yeah.
Alors, c'était donc cette fois accompagné par de la vielle mongole.
Oui, voilà. C'est ça.
On est toujours donc en voyage en Mongolie avec Hélène Gosselin-Jacobacci pour parler de ce chant bien particulier aussi.
Oui. Et je tiens à dire que tous les titres que vous allez entendre sont issus d'un coffret de 2 CD intitulé « Anthologie du Houmé mongol ». Pour en savoir plus, vous pouvez prolonger le voyage avec Route Nomade, www.routenomade.fr-anthologie. Voilà, les CD ont été réalisés à l'initiative de M. Curté Joanny, donc le professeur de l'Institut de Bagne, qui est professeur au conservatoire, en collaboration avec l'IMM. Voilà, donc on remercie ce monsieur pour ce précieux trésor. Ce sont 2 CD qui regroupent vraiment beaucoup d'artistes, et c'est formidable d'écouter toutes ces variétés. Donc pour en revenir à la Mongolie, effectivement, quand vous arrivez à Oulan-Bator, il y a bien plein de choses à voir, hein, mais dans tout le pays. Hein. Donc vous pouvez voir bien sûr le musée de Gengis Khan. Alors c'est un musée formidable parce qu'ils sont très fiers de leur héros mongol qui a conquis avec des chevaux, des petits chevaux robustes, des guerriers et quelques flèches avec des arcs. Ils avaient aussi quelques catapultes en bois. Ils ont conquis le monde. Ils sont allés jusqu'en Italie quand même. C'était incroyable à cette époque de faire autant de conquêtes territoriales. Donc le musée de Gengis Khan, c'est un formidable bâtiment dans le centre-ville. Il fait 6 étages. Et alors là, vous avez de tout. Hein. Tout, c'est excellent. Vous y passez un sacré moment. Et le clou du spectacle, c'est la salle du trône. Alors, au dernier étage, vous entrez dans une grande pièce, il y a un gardien qui vous donne des surchausses parce que vous ne pouvez pas salir le trône où est installée la statue en or de Gengis Khan. Alors elle est couverte de feuilles d'or et elle est immense dans une grande pièce qui est merveilleusement décorée. Et on ne peut pas s'approcher, il y a des barrières très jolies, hein, en tissu rouge, voilà. Et vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez, par contre. Alors ce monsieur, c'est l'anecdote rigolote, c'est que les Mongols sont quand même assez communicatifs, hein, parce que le monsieur nous a entendu parler français, il nous a dit « Oh, vous êtes... » Alors on a parlé en anglais avec lui. « Vous êtes français ? Oh, Zidane, Barthez, la Coupe du Monde, 98 !» Il était à fond. Et vraiment, c'était drôle de voir qu'au bout du monde, on avait un fan de Zidane et de Barthez. Voilà. Ensuite, il y a également... il faut savoir que les Mongols sont surtout bouddhistes. Il y a quelques musulmans et quelques chrétiens. Mais il y a beaucoup de temples, dont un. C'est un temple qui est dans le centre-ville. Et en fait, il est en activité. En fait, c'est une école pour les moines. Donc, il y a une partie où les gens peuvent vraiment visiter, notamment un endroit qui fait 40 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a une divinité, c'est le roi de la paix. Il est entouré de 1000 Bouddhas. Enfin, il y a des statues magnifiques. C'est incroyable. C'est le monastère de Gandan. Voilà. Ce monastère, depuis 1900, rassemble plus de 400 moines, c'est ce que j'ai dit. Il a contribué à la reconstitution et la création de 150 monastères dans tout le pays. C'est un centre où l'on peut encore étudier le bouddhisme. Il comprend plusieurs bâtiments. Donc cette statue dans le plus grand bâtiment qui mesure 26 mètres est composée de cuivre doré. Elle est ornée de 200 pierres précieuses, habillée de plus de 100 kilos de vêtements. Et le tout représente le roi de la paix. Voilà, de nombreuses statues, divinités l'accompagnent. C'est à ne pas rater si vous allez à Oulan-Bator. Et puis, oui, j'ai oublié de dire qu'effectivement, Gengis Khan, c'est son nom connu de guerrier, mais en fait, son prénom, c'était Timujin. Voilà, c'est joli, Timujin. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Alors, au niveau de la nature, il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup d'aigles. Beaucoup d'aigles, c'est un peu comme les pigeons chez nous. Il y a des aigles partout. Alors, vous allez dans une petite ville et vous voyez des rassemblements d'aigles perchés sur un mur. Quand vous approchez du mur, hop, tous les aigles s'envolent. C'est quand même une expérience à vivre. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que au niveau financier, la vie, elle n'est pas chère là-bas. La nourriture n'est pas chère, le logement n'est pas cher. Alors, certes, vous devez payer un billet d'avion. Et puis, pour le voyage, il faut un chauffeur, il faut une voiture correcte. Une 4x4, parce que les pistes sont très aléatoires. Hein. Il y a beaucoup de trous, de bosses, des pierres. L'hiver, il peut faire -40, donc les routes, elles souffrent. Le réseau routier est assez bon, mais il n'y a pas beaucoup de réseaux routiers. Donc, si vous voulez vraiment voyager, il va falloir prendre des pistes. Voilà. La monnaie en cours là-bas, c'est le tigrit. Donc, 1 euro, ça vaut 4135 tigrit. Donc, en fait, tous les prix sont en milliers ou en millions. Donc, pour mentalement, il faut tout diviser par 4. Comme ça, vous vous dites, ben voilà, ça fait ça en euros. Les supermarchés dans les grandes villes sont très bien achalandés, on trouve vraiment de tout. Au début de notre voyage, on est allé dans le Gobi, c'est-à-dire qu'on est parti d'Oulan-Bator, qui est plutôt à l'est. Pas le Grand Est, hein, c'est quand même à l'est. On est descendu dans le sud et on a commencé à border le Gobi. Donc là, vous avez du sable très fin avec des dunes, mais vous avez aussi du désert plat avec des petits buissons, des cailloux. Et là, des nomades qui élèvent des chameaux. Donc, le long de la route, vous avez plein de petites boutiques, ce sont des yourtes qui proposent à manger aux gens qui veulent s'arrêter. Évidemment, vous ne trouverez pas de McDo ni de Burger King, tout ça là-bas, pas dans la steppe, vous en trouvez dans les grandes villes. Donc, vous mangez sur le bord de la route, vous mangez de la viande, des raviolis à la viande, des crêpes à la viande et du fromage. Voilà, vous mangez vraiment local. Hein, pour les végétariens, c'est un peu compliqué. Il faut amener des choses avec vous. Donc, nous allons dans un camp, dans une réserve naturelle qui s'appelle Bactan Mountain. La ville la plus proche s'appelle Rashant. Et nous sommes accueillis par des éleveurs de chameaux. Le patron s'appelle Santan. Il a 70 ans. Il court derrière ses chameaux. C'est incroyable. Ça doit vraiment maintenir en bonne santé. Il vit avec sa fille et deux petites filles qui sont charmantes. Nous avons une yourte pour 4 et il y a une autre yourte pour notre guide Ousso et Jigé, notre chauffeur. Donc on déjeune et on dîne à l'intérieur, mais pas avec les hôtes. On déjeune et on dîne entre nous. Par contre, on boit avec les hôtes. Les hôtes vous invitent dans votre yourte et vous buvez de la vodka. Nous avions amené des alcools, donc c'est très apprécié par les hommes. Et les femmes apprécient les vins. Les vins doux, les liqueurs, les choses comme ça. Voilà, donc ils ont également une petite prise, ils ont de bienvenue. Alors c'est un petit objet, on dirait une petite fiole. Elle est en dur, souvent c'est en pierre ou une pierre semi-précieuse. C'est très joli. Et dedans, vous tirez un petit bâtonnet comme un coton-tige. Et vous mettez un peu de ce liquide un peu marron sur le creux de votre main, entre l'index et le pouce. Là, vous avez un creux. Vous appliquez ça dessus et hop, vous le sniffez d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est pour marquer la bienvenue avec le thé salé. Alors ça, vous buvez du thé salé tout le temps, partout, dès que vous arrivez quelque part, c'est du thé salé qu'on vous offre. C'est très bon, avec du lait de femelle de yak. Ouais. Mm-hmm. C'est très bon, franchement, c'est curieux, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs ramené, parce qu'on peut l'acheter en sachet. Voilà, donc le lendemain, on a fait du chameau, certains sont allés marcher sur les dunes, voilà. On est toujours très bien accueillis. Quoi dire d'autre ? Effectivement, nous avons eu la chance d'avoir donc ce guide Ousso qui nous a fait bénéficier des personnes qu'il connaît, donc des artistes, et nous avons eu un concert privé dans une petite salle avec une famille qui s'était habillée en tenue pour nous quatre, et ils ont interprété tout un tas de leurs compositions. C'était vraiment très intéressant, des chants super intéressants. Et au début, ils nous ont montré un petit film. Alors il faut savoir que quand on élève des chameaux, des chevaux ou bien des yaks, des moutons dans la steppe, parfois il y a des décès. Donc parfois la mère meurt en mettant bas et le petit, lui, il a besoin de téter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une femelle ou chamelle ou jument ou que sais-je. Là en l'occurrence dans ce film c'était une femelle chamelle. Ils sont allés la chercher et ils ont essayé de faire téter le petit par cette femelle qui venait d'avoir un petit. Donc elle avait du lait. La femelle refusait totalement. Donc, la jeune fille de la famille s'est mise à caresser le cou de la chamelle et elle s'est mise à chanter le Humé avec une voix cristalline. C'était très émouvant. Dans ce petit film, il n'y a aucune parole, mais on voit la femelle chamelle qui se calme et on la voit même qui se met à pleurer. Mais franchement, on voit les larmes qui sortent de ses yeux. Et la jeune fille continue à chanter et petit à petit, les autres amènent le petit chameau qui est mort de faim. Et la femelle se laisse faire au bout d'un moment. Alors qu'au départ, on la voit complètement refuser ce petit qui n'est pas le sien. Et grâce au Humé, ça calme la femelle. Et en fait, elle accepte de donner son lait. Et ça, on a trouvé ça extraordinaire. J'ai lu un livre aussi qui raconte la même chose avec une jument et un petit poulain qui avait perdu sa maman. Et franchement, ça, c'est une pratique que je ne connaissais pas du tout. Et grâce au humé, grâce à ce chant qui vient de la nature, et les animaux vivent en pleine nature, et bien grâce à ce chant, on arrive à calmer une femelle chameau et à lui faire accepter un petit qui n'est pas le sien. Donc ce concert était vraiment magnifique et ils fabriquent également des morinjur, donc cette vielle à tête de cheval, et elles étaient plus décorées les unes que les autres, on avait envie de toutes les acheter. Voilà, on est ensuite allé visiter une grande cascade magnifique qui s'appelle Bat Khan Wal. Pendant cette promenade auprès de cette cascade, nous avons rencontré des jeunes qui étaient en habit traditionnel, nous avons fait des photos, bref. Partout où vous allez, vous êtes vraiment bien accueillis. Je vous propose peut-être d'écouter un troisième morceau. Alors c'est aussi une archive sonore de la radio publique de Mongolie. Ça dure 1 minute 35. Il s'appelle Bural Mori, celui qui chante. Et il a vraiment contribué à faire connaître le Humi au niveau international. C'est une archive de 1962.
Ça demande quand même une bonne respiration, hein,
oui.
Pour prendre son...
Ça demande du souffle, oui. Alors, je voulais vous parler de notre guide, donc Rousseau, qui est un personnage haut en couleur. Hein, je vous ai un petit peu évoqué comment il était connu là-bas. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait de son hara que j'ai sur mon téléphone, parce que je communique toujours avec lui. Et ensuite, je vous parle du voyage qu'il organise au mois de juillet, pour ceux que ça intéresse. Alors c'est le kagra, c'est inspiré de la montagne et c'est très grave. Voilà, vous aurez compris, c'est une discipline qui est un peu rigoureuse. Hein. Elle demande une certaine technique et de la pratique, et du souffle aussi, ouais. Donc, oui, je vous disais, Rousseau organise début juillet, à partir du 2 juillet pour 15 jours. Il organise un séjour en Mongolie pour les personnes qui ont envie d'y aller. En fait... je peux vous donner l'adresse mail. C'est un voyage où il est compris donc un interprète, il est compris un chauffeur, une voiture, le prix de l'essence. Pour les 15 jours, je vous donne l'adresse mail, si vous voulez, tout est en minuscule. Je vais vous l'épeler parce que à prononcer comme ça se dit Kelkorfgesang, donc je vais vous l'épeler, ce sera mieux. Alors c'est kehlkopfgesang@yahoo.de. Attention, c'est ni .fr ni .com, c'est yahoo.de. Voilà, donc vous pouvez écrire à ce monsieur tout en anglais, parce que par contre il parle pas français, pas très bien. Il parle aussi allemand, vous pouvez lui écrire en allemand si vous maîtrisez la langue. Voilà, donc c'est début juillet, à partir du 2, pendant 15 jours. Donc il va tout vous expliquer, c'est vraiment il a très envie cette fois-ci de faire un voyage musical, il y aura des festivals, il y aura aussi là-bas, c'est en été, c'est le festival de la lutte. Alors ils ont des jeunes hommes qui luttent parfois dans des stades, parfois dehors quand il fait beau. Le premier qui fait tomber l'autre, il a gagné. Il y a des courses de chevaux. Alors il y a des enfants, il y a des femmes aussi qui font des courses des concours de tir à l'arc. Et il y a aussi des démonstrations effectivement d'élevage d'aigles, parce qu'ils chassent, certains chassent avec les oiseaux. Voilà, donc c'est vraiment dépaysement garanti. je vous engage à faire cette aventure magnifique. Et une chose aussi qui nous a marqué, c'est l'ancienne cité qui était anciennement la capitale de Mongolie, qui est Karakorum. En fait, c'était la cité de Genghis Khan, fondée en 1235. Donc, comme je disais, elle était la capitale du pays à l'époque. Elle se situe près de la ville de Akhorin, au nord-est de la province d'Ovorkhangai, au centre du pays. C'est vraiment au centre. En plus de la cour impériale, on y trouvait des marchands au long cours, des artisans et des délégations étrangères. C'est vraiment un endroit très vaste, entouré de murs, avec des stupas. Tout est magnifique. Donc, vous pouvez visiter les temples. Les temples on peut vraiment rentrer dans les temples. On peut même y chanter. Moi, avec mon guide, nous avons chanté des louanges de Tara. Tara, c'est une déité bouddhiste. Il y en a 21. Et à chaque Tara appartient une valeur, est allouée une valeur, la compassion, etc. Et donc on peut rentrer, on peut chanter, on peut prendre des photos. Voilà, ils sont vraiment très accueillants à tout niveau. Ils ont envie, je crois, de faire connaître leur pays. Ils ont envie de faire connaître leur culture. Et à Oulan-Bator, il se construit plein d'immeubles. Mais des tours. Donc, à mon avis, c'est un pays en plein essor, là. Ils doivent faire du commerce, voilà, avec la Chine, ça c'est sûr, la Corée, peut-être aussi la Russie. Et ils ont très envie d'ouvrir à l'Europe, justement, notamment au niveau du tourisme. Donc, je ne peux que vous engager à faire ce voyage magnifique. Peut-être on peut écouter, pour finir, juste avant de vous dire au revoir, un titre qui comprend, en fait, quatre sortes de humé. Vous allez les entendre, il y a du humé sifflé, du humé grave. Vous allez entendre les voix pressées, le humé par le nez. Donc c'est aussi une archive de 2016, cette fois-ci. Et c'est un jeune homme qui s'appelle Banjin Nyam Gambold. Oh.
Voilà, donc on était avec Hélène Gosselin-Jacobacci pour nous parler de ce pays, la Mongolie, dans ses grandes lignes, et puis de ce chant particulier. Là, c'était donc quatre sonorités différentes,
quatre techniques. De humi. Et le dernier, là, c'était le humi sifflé, le humi aigu, qui peut faire vraiment une mélodie en plus d'un bourdon. Et là, c'était accompagné par la vielle à tête de cheval, la morahur.
Alors, vous qui avez étudié et qui continuez d'apprendre le chant diphtonique ou des techniques vocales s'y rapprochant, on voit que ça demande beaucoup de respiration. Comment vous vous sentez quand vous terminez une séance? Est-ce que vous êtes rechargé en énergie ou est-ce que vous êtes vidé?
Ah non, on est vraiment rechargé en énergie parce que, en fait, ça vibre dans tout le corps. Quand vous faites le kagra, ça vibre dans la cage thoracique, ça détend énormément. Et le fait de prendre des respirations et de contenir son souffle, en fait, c'est comme une cohérence cardiaque un peu, hein, je veux dire. Si les gens connaissent un peu la cohérence cardiaque. Ça apporte vraiment du bien-être. Ouais, vraiment, on se sent bien, on se sent soi-même, on se sent plein de bonnes vibrations. Ouais, ça fait du bien, c'est vrai. D'ailleurs, ça soigne les animaux. Hein. Là-bas, ils chantent le humé pour apaiser les animaux sauvages. Le bétail, etc. Donc oui, c'est c'est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé apprendre et j'aime beaucoup exercer. Bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, mais je m'y emploie. Alors, je voulais remercier vraiment Fréquence Mistral de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Odile, de ton accueil qui est toujours chaleureux.
Merci,
j'espère que cette émission a plu aux auditeurs. Et je voulais remercier aussi vraiment mon guide et toutes les personnes qui m'ont amené à cette technique et à toutes ces découvertes formidables sur la Mongolie.
Merci Hélène, et on mettra bien sûr sur le site l'émission et les différents liens que vous nous avez donnés pour les personnes qui seraient intéressées pour faire ces stages, ce séjour donc au mois de juillet.
Pour finir, on peut mettre, on peut mettre une chanson également qui vient des archives sonores de 1986. Ça s'appelle, alors les personnes qui chantent, c'est Jensson Erdenin Oron.
Merci Hélène, au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Эн курин туян дэсэртэн
идэлгэн бүс юм гайд толдон иртэн
эрэлхэг ард өмнийм нэв ган иртэн
их хамн та юм иртнийм бидээ.
Thank you. өөрийнх судрыг миний ардм 9 эрднэр бичдэг үлээ. Мөн усыг давсан ажил бүр лан хүндэж миний ардм 9 эрднийг дэвсдэг үлээ. Мөрөөдөж хүстийн дээд 9 эрдэн төгс миний ардм улсаан батруулж яваа үлээ. Мөрөөдөж хүстийн дээд эв амцд хүрч миний ардм 9 эрдэн дээдэж үлээ.